Et comme là, j'ai l'impression, et je ne me trompe pas, que nous sommes déjà en train d'enregistrer, je suis super content. Je te dirai, Mnachour, bonjour. Merci d'avoir accepté très rapidement cette invitation. Je suis très heureux de te rencontrer parce que ton parcours est...
complexe, varié.
Il est varié, ça j'aime. Non, c'est vrai, il est varié, mais il est aussi très intéressant. Donc, comme moi, j'ai pour principe d'être le plus naïf dans mes entrevues, je veux que tu me racontes tout.
Ok.
Du début à la fin. Mais on va commencer très, très banalement. Je sais que tu es né ici.
Oui.
De parents tunisiens.
Exactement.
Voilà. Et puis la suite.
À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Mon père est arrivé en premier, il est arrivé en 85 et connaissait déjà ma mère à l'époque du bled. Ils étaient déjà un petit peu amoureux, là. Ils se fréquentaient et tout, mais quand ils ont décidé de se marier, mon père a proposé à ma mère, veux-tu me rejoindre ici, puis on va faire nos vies ici, je crois que ça pourrait être, on pourrait avoir plus d'opportunités si un jour on a des enfants. Donc ma mère a dit oui, ils se sont mariés, ma mère est venue en 89 et moi je suis née en 90, donc et là ça commence.
La ville de Montréal a retrouvé ses couleurs et sons comme à chaque période estivale. Les expressions culturelles, diverses, musique, danse, humour, occupent les scènes extérieures et intérieures des lieux de spectacle regroupés en festivals. Et c'est dans le cadre du ZOFEST, un incontournable festival d'humour montréalais, que j'ai rencontré l'humoriste Mnachour, programmé pour deux spectacles. Ancienne journaliste spécialisée dans le hockey, Mnachour, néo-québécoise d'origine tunisienne, s'est reconverti il y a quelques années dans l'humour, non sans succès. Parmi ses thèmes de prédilection, le racisme, les discriminations diverses, la politique, le sexisme, l'environnement. Et justement, les thèmes du racisme, du sexisme et de l'environnement constituent l'ossature des deux spectacles qu'elle présente au ZOFEST. Le premier, québécoise, a lieu le 17 juillet avec un line-up d'humoristes femmes que Mnachour a rassemblé. Gariana, Sinem Cara, Altès, Erika Suarez, Claudia Lopez. Ce spectacle Les Québécoises a lieu le 17 juillet au pub de l'Île Noire. Trois jours après, le 20 juillet, Biodiversité avec Danae Odé-Beaulieu. Lui est un écologiste anticapitaliste, elle, Mnachour, féministe et antiraciste. Ça vous donne un cocktail qui, comme le dit la pub, ferait fendre MBC en deux. Pour parler de tout ceci, et d'autres choses, j'ai rencontré Mnachour pour une jazette.
Je veux dire, j'ai eu une très belle enfance. Je suis née à Hochelaga-Maisonneuve, ici.
J'ai découvert ça.
Oui, ouais. Je suis née tout près d'ici. Ouais. Puis après ça, j'ai grandi surtout à Laval. Mais donc, dès que je suis partie chez mes parents, je suis revenue à Montréal parce que c'est ma ville. C'est où est-ce qu'il y a la culture, où est-ce qu'il y a toutes les opportunités. Mm-hmm. Vers l'adolescence, j'ai commencé à développer un amour pour le sport, pour le hockey, le sport, le regarder à la télé, hein, pas le jouer. J'étais pas très bonne pour le jouer. Évidemment qu'on m'a dit qu'en étant une femme, et en étant une femme non blanche en plus, que ça allait être très compliqué, mais j'étais très naïve et en confiance de mes moyens. Puis j'ai foncé, puis j'ai réussi très jeune à devenir journaliste sportive. Et moi, mon rêve, c'était de couvrir le Canadien de Montréal. J'aimais beaucoup le hockey. Puis j'ai réussi à 22 ans, je couvrais le Canadien de Montréal.
Donc tu as réalisé ton premier rêve.
J'ai réalisé mon premier rêve.
Ok. Mais quand je veux revenir à la famille. Donc quand les parents, ils viennent ici, donc il y a toi qui nais en 90. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres?
J'ai une petite soeur qui nait en 96.
En 96. Il n'y a pas de garçon.
Non, pas d'accord. De garçon.
Mais ça venait d'où? Est-ce que c'est papa qui regardait ça? Mais,
papa regardait le hockey, il était très fan de hockey, mais moi, du plus loin que je me souvenais, je détestais. Je lui disais toujours de changer de poste à la télé, je voulais rien savoir. Puis je sais pas, un beau jour, j'avais peut-être 13, 14 ans.
Tu regardais, mais tu n'en pratiquais pas.
Non, du tout.
Ok.
Je me suis vraiment assise devant la télévision, je me suis dit, ok, je vais regarder ce truc dont tout le monde parle. Là. C'était la fin de l'année, les séries, on sait qu'ici, les gens, il y a une grosse effervescence quand le Canadien est en série. Puis je me suis assise, puis j'ai dit, bon, ah ben, c'est pas mal, hein? C'est quand même excitant, c'est quand même divertissant. Puis de là, on dirait que c'est ça, on dirait que j'ai développé, tu sais, à l'adolescence, on veut développer un sentiment d'appartenance. Il y en a qui développent un goût pour, je sais pas, la musique, pour la mode. Ben, moi, c'était le sport, c'était ouais. ma personnalité, c'était ça. J'étais la fille qui aimait le Canadien, qui aimait le hockey. Puis ça m'a suivie, puis j'ai voulu en faire un métier. Mes parents, pas particulièrement d'accord, très apeurés, comme beaucoup de parents. Puis pour moi, c'est extrêmement légitime.
Si, aimé.
Oui. Un métier qui est très difficile, beaucoup c'est d'appelés, ça. Peu d'élus. Puis moi, en plus, j'avais des bonnes notes à l'école. Je veux dire, je m'enlignais vers un domaine scientifique, quelque chose. Puis rendu au cégep, j'ai dit, tu sais quoi, non, je veux aller en communication. J'ai envie de devenir Chantal Maccabé, tu sais. Puis il y a eu quand même une petite friction là avec mes parents qui étaient inquiets au final. Ouais. Ils voulaient pas briser mes rêves. Ils voulaient juste me montrer que ça allait être extrêmement difficile. Puis je le comprenais, mais... J'étais extrêmement têtue, fait que je leur ai un petit peu menti.
OK.
Puis je me suis quand même inscrite en communication, puis ensuite inscrite en journalisme à l'université. Puis journalisme à l'université, à l'UQAM, c'est très contingenté. Ils prennent que 60 personnes par année. Il faut faire une audition, il faut faire un... Puis on dirait qu'à partir de là, quand j'ai été acceptée, ben là, ils pouvaient plus rien dire. J'étais comme, OK, ma fille, vas-y, on te fait confiance. Puis à ma première année de bac, j'ai eu mon premier emploi. Je travaillais à la Presse canadienne, qui est une agence de presse. Puis là, avec un très bon salaire, avec des très bonnes conditions, puis là, c'était OK, ils avaient la tête tranquille, vas-y ma fille, va réaliser tes rêves. Puis une dizaine d'années plus tard, quand j'avais 28 ans, en fait, j'ai réalisé que j'en avais un peu marre. J'avais réalisé mon rêve de couvrir le Canadien. J'avais des trucs sur ma liste là, à checker, couvrir une finale de la Coupe Stanley, je l'avais fait. Mais j'en dirais que mes lunettes roses de jeunesse et de passionnée étaient parties un petit peu. Là, je voyais... les difficultés pour les femmes dans le journalisme sportif, je voyais les machos, je voyais le sexisme, je voyais tous les défauts. Puis je me disais que je pense que j'avais fait tout ce que j'avais à faire dans ce milieu.
Il fallait changer.
Il fallait changer.
Ne me dis pas que tu es partie de là seulement avec des regrets.
Non, ben je veux dire, j'ai vécu un deuil. Là. Moi, j'ai pleuré pendant une semaine quand j'ai décidé là, que c'était terminé puis qu'il fallait que je change. C'est comme si je perdais une partie de moi parce que moi, je pensais que ma vie était tracée. Je veux dire, j'avais travaillé tellement fort pour me rendre là, puis je pensais que j'allais jusqu'à la retraite, là, être journaliste. Puis j'ai réalisé que ce qu'on aimait il y a 10 ans n'est plus, est rendu ce qui nous fait de la peine et ce qui nous rend malheureuses aujourd'hui. C'est dur. Mais je retiens, évidemment, j'ai beaucoup appris, j'ai voyagé. Grâce à ça, j'ai rencontré des gens exceptionnels. Des fois, je me demande, ce serait quoi ma vie si j'avais continué? Parce qu'aujourd'hui, tu sais, je veux dire, j'ai un regard. Vraiment, à l'époque, toute ma vie était concentrée sur le sport. Là. J'étais pas très politisée, je m'informais pas trop sur les enjeux sociétaux. Tu sais, sport. Puis aujourd'hui, j'ai lu sur le racisme, j'ai lu sur le féminisme, la misogynie. Je suis beaucoup plus woke, là, comme dit.
Dans la période 22-28 ans, lorsque tu commences à sentir cette lassitude, là, à aucun moment dans ta tête, tu ne te dis, mais peut-être que je vais aller voir ailleurs. Voyager, je sais pas, je vais aux États-Unis, tenter maintenant.
Ben exactement, c'est ça. C'est à 25 ans que je suis partie pour une première fois, mais que pour moi, c'était pas je partais du journalisme, je partais juste de cet emploi-là qui m'ennuyait. Mais moi, mon expertise, c'est vraiment le hockey. Je veux dire, tu me demandes d'écrire un texte sur le football américain demain matin. Aucune idée. C'était vraiment mes connaissances, mes contacts. C'était dans le hockey et dans le tennis aussi. Fait que j'ai fait un petit peu ça. Je suis partie en Russie, je suis partie en Finlande, je suis partie en France.
Oh oui, t'as voyagé. La Russie, Finlande, là. Oui,
c'est ça que j'ai fait de 25 à 27 après. Là, j'ai fait des voyages. Puis j'ai travaillé ponctuellement dans des championnats, dans des tournois de hockey, de tennis et tout. Donc ça, oui, ça m'a comme redonné un petit peu foi en cette job-là. Puis aussi, je me disais, ah, peut-être que je suis plus faite pour du travail autonome, tu sais, d'être complètement journaliste indépendante et pas nécessairement salariée temps plein de 9 à 5. Tu sais, ça me plaît pas beaucoup.
Mais alors, tu es partie, tu as quitté ce métier. Tu aimes toujours le hockey? Tu le suis toujours?
J'ai un petit peu un syndrome post-traumatique. Donc, j'aime pas beaucoup le regarder. Quand le Canadien a fait la finale de la Coupe Stanley l'année dernière,
Comme tout le monde,
j'ai dit bon, voilà. Ouais. Mais ça me rapporte plus vraiment de bonheur comme avant.
Je reçois aujourd'hui quelqu'un qui nous écoute là tout de suite, je lui ai dit, mais oui, Emna Achour est devant moi, mais elle est là avec la casquette d'humoriste. Il vient d'entendre les premières minutes de notre entretien, il dit, ok, il y a quelque chose que je ne comprends pas là. Ils ont parlé de journalisme et elle est passée à humoriste. Ouais. Comment se fait le switch?
C'est que comme je disais, j'avais l'impression d'être inutile. J'avais réalisé ce rêve de couvrir un truc que j'aimais beaucoup et pour lequel j'obsédais là. Mais là, quand j'aimais plus ça, puis je voyais plus les qualités de ce milieu-là, je me disais, moi là, j'ai eu une tribune pendant presque 10 ans, puis je l'ai utilisée pour parler de buts et de points. Pour moi, ça faisait aucun sens. Moi, je commençais, comme je disais, à lire, à me politiser un peu plus, à m'informer sur des enjeux qui, je considère, sont beaucoup plus importants. Puis là, j'étais comme, hey, non, là, moi, j'ai des choses à dire. Je suis une femme racisée. J'ai envie de parler de certaines choses, mais je veux plus le faire dans un cadre journalistique parce que, de toute façon, avant de devenir chroniqueur d'opinion, ça prend 20 ans. Fait que j'ai dit non. Qu'est-ce que je pourrais faire? Mais en plus, c'est ça. En plus, je suis très carriériste et et très passionnée. Je veux faire quelque chose qui me passionne. Je pourrais pas faire un job de 9 à 5 que je n'aime pas. Mais là, je fouillais. Puis moi, j'avais un peu enfoui mon côté artistique très loin là, quand j'étais devenue journaliste. Parce que quand on est journaliste, on n'est pas journaliste de 9 à 5. On est journaliste 24 heures sur 24. Il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de rien, là, tu sais. Puis un truc que j'aimais, même avant de connaître le sport, j'aimais l'humour. J'aimais beaucoup l'humour. Mes parents regardaient les galas Juste pour rire d'Yvon Deschamps. Je me souviens, j'ai 4 okay. 5 ans. Puis je regarde ça à la télévision. On les écoute tellement souvent que je les connais par cœur. Je suis fan de beaucoup d'humoristes au Québec. Je connais vraiment beaucoup l'industrie humoristique québécoise. Je suis fan, je vais aux Zoufest à chaque été avec ma passe, le fidèle. Là, je vais voir 100 shows par festival. Et j'ai dit, c'est quoi ça? Ça n'a jamais été un objectif que je m'étais mis parce que dans ma tête, c'était inatteignable. Au Québec, les humoristes, on leur donne de très grosses tribunes. On leur donne du très gros pouvoir. C'est de très grosses vedettes. Ici, on les voit partout. On les voit en stand-up, en spectacle, mais on les voit à la télé, on les écoute à la radio, on les voit dans les films. J'ai dit, je pense que. En plus, il n'y a pas beaucoup de personnes comme moi dans l'industrie médiatique là, québécoise. Je pense que j'ai des choses intelligentes à dire. Je sais que je suis drôle. Je sais.
Oui.
Mais dans le sens, après ça, ça aurait pu vraiment mal se passer, mais j'avais une petite confiance quand même. J'ai dit, c'est quoi, je pense que tout ça, ça m'amalgame ensemble assez bien, puis j'ai envie de me lancer.
Ok, donc c'est toi et ta conviction, oui. J'ai de l'humour, je voilà.
Mais mes parents sont les deux clowns de leur famille respective.
D'accord. Ok, mais donc c'est génétique.
C'est ça. Moi, je pense que c'est foncièrement génétique.
Mais alors, en fait, je vois deux passions. Passion du sport, c'est trop dire, mais du hockey spécialement, j'y vais. Je suis tanné. Il s'avère que j'aime l'humour, mais passionné d'humour, je connais tout l'humour, j'y vais. Donc, rien, en fait, n'est calculé.
J'ai réussi à être journaliste sportive à 22 ans. Tout est possible.
Tout est possible.
C'est de la naïveté.
Oui.
De la naïveté
positive, peut-être la conviction aussi.
Je savais, j'ai vraiment un esprit scolaire et analytique. Et j'avais vraiment, comme en journaliste, même si j'étais jeune, je savais dans quel ordre j'allais devoir placer quelle brique à quel endroit pour me rendre. Ça aurait pu ne pas fonctionner parce qu'après, il y a une question de timing, de contact, de tout ça. Mais on dirait que dans ma tête, je savais comment ça, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour le faire, puis il suffisait que je le fasse dans le bon ordre, tu sais. Puis c'est ce que j'ai fait, mais j'ai essayé, par exemple, de rentrer à l'École nationale de l'humour, parce qu'au Québec, on a une
école. Je crois qu'on t'a refusé pas seulement une fois, deux fois. Tu aimes prendre des risques?
J'aime les défis.
Les défis, plutôt.
J'aime beaucoup quand on me dit que je suis pas capable de faire quelque chose.
OK.
J'aime les endroits où il n'y a pas beaucoup de femmes et où il faut défoncer des portes. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui vient avant. Est-ce que je suis vraie? Des fois, je me dis, est-ce que j'aimais vraiment ça, tant que ça, le sport, ou c'est juste parce qu'on m'a tellement dit que je serais pas capable et que je voulais prouver à tout le monde?
À tout le monde que c'était pas le cas. Quand tu as embrassé la carrière de journaliste, les parents n'étaient pas tout à fait sûrs. Là, quand tu as embarqué dans l'humour...
Non plus.
Non plus?
Non plus, mais j'étais plus vieille. J'étais plus vieille, puis... Mais ils étaient vraiment comme, Emma, t'es sûre, là, comme là, enfin, t'avais une bonne job, t'avais des assurances, t'avais un salaire. Là, l'humour, ça allait prendre plusieurs années. J'allais pas pouvoir vivre de ça avant. Tu sais, j'allais devoir avoir un autre job à côté. Mm-hmm. J'allais, tu sais... Puis je leur ai dit, vous m'avez fait confiance la première fois, puis ça a bien été, faites-moi confiance. Pour cette fois-ci. Puis ils sont venus me voir, je pense, à mon deuxième open mic à vie. Puis moi, j'étais stressée, mais je savais qu'eux aussi étaient stressés. Puis pour la première fois, mon père, ma mère, ma soeur sont venus me voir. Puis à la fin du spectacle, puis ça s'est bien déroulé quand même. À la fin du spectacle, ils sont venus voir, puis ils étaient comme, hey, mais t'es bonne! Puis ma soeur, elle me disait, Amina, j'avais tellement peur que tu sois pas bonne, puis qu'on sache pas comment te le dire. Mais tu sais, j'avais quand même, tu sais, après, on sait jamais ce qui peut arriver, tu sais, on sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais quand même, pour lâcher un emploi, puis me lancer dans une carrière comme ça, j'avais quand même réfléchi. Tu sais, oui, c'était un coup de tête, mais un coup de tête calculé, dans le sens, je me serais pas lancée dans quelque chose que je savais que je connaissais pas déjà un peu les tenants et aboutissants, que j'avais pas déjà étudié le fonctionnement. Tu sais, j'aurais pas pu me lancer, je sais pas moi, cascadeuse, je suis comme du jour au lendemain.
Tout à fait. Femme racisée, dans le milieu de l'humour, on peut pas dire qu'il y en ait eu beaucoup. Tu fais partie de celles qui, justement, sont les pionnières. Au-dessus de toi ou avant toi, oui, il y a eu Nabila Ben Youssef. Qui a choisi la politique, là, récemment? Est-ce que, par rapport au moment où tu es entré, est-ce que ça a évolué? Est-ce que c'est plus facile? Et permets-moi plus de parler de femmes néo-québécoises qui essayent de rentrer là-dedans. Est-ce que c'est plus facile?
J'ose espérer.
Ou est-ce que c'est moins difficile?
C'est peut-être moins difficile, mais c'est peut-être parce qu'il y a eu, depuis mon arrivée, quelques autres initiatives. Tu sais, les Bad Girls du Rire, que moi j'ai faites à quelques reprises. Aussi, il y a ma soirée des allumetières, je veux dire. Après, on n'est pas nombreuses non plus à être femmes racisées et engagées et parler de sujets politiques.
Je veux finir avec deux, trois questions à rafale. Qui est ton public?
Beaucoup des femmes. Mais avec ma soirée des allumetières dans les dernières éditions qu'on a fait avant les vacances, beaucoup aussi des personnes, hommes, femmes, personnes même non-binaires ou des personnes de la diversité sexuelle en tout cas, LGBTQ et tout, parce que je pense qu'elles sentent justement qu'elles ont compris que moi, dans mon humour, j'allais pas discriminer qui que ce soit, et qu'elles se sentent en sécurité, elles se sentent qu'enfin ils peuvent rire. Il y a plein de monde qui me disent, Emna, c'est la première fois qu'on va voir un spectacle d'humour, point, à ta soirée. C'est fou, ça veut dire que, comme on disait tantôt, ils se sentent pas représentés dans les... Même qu'ils détestent l'humour. J'aime pas l'humour, moi. Ben non, c'est que t'as pas encore trouvé quelque chose qui te ressemblait.
Qui te parle aussi.
Exact. Mais après, comme tu dis, on peut être surpris. Moi, une fois, j'ai fait un spectacle que je voyais là, que le public était très froid. Puis j'avais peur un petit peu. J'étais peut-être la troisième personne à monter sur scène dans ce spectacle-là. Puis je voyais, c'était beaucoup des jeunes. Et pourtant, ils étaient pas du tout réceptifs. Puis il y avait comme 4-5 monsieur de tête blanche dans le fond, et j'ai dit, eux autres avec mes blagues féministes là, ils vont pas m'aimer du tout. Et ben après le spectacle, c'est les monsieur dans le fond qui sont venus me dire, hey, bravo, good job, t'as bien fait ça, on sait jamais.
La question est peut-être similaire, mais pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'on t'aime?
Moi, je suis un petit peu baveuse, mais avec le sourire. Jamais fâchée. Mais fâchée, oui, mais fâchée souriante. Fait que je pense que ça rend... ça conscientise les gens à se dire, OK, il y a un enjeu auquel on devrait s'arrêter, mais elle n'est pas en train de me faire la morale. Elle est en train de me l'expliquer avec son vécu, puis il faut que je l'écoute, dans le fond.
Dans, sur scène, tu es baveuse, mais souriante. Mais dans la vie, est-ce que tu es fâchée?
Ah oui, moi je suis très fâchée. Okay. Mais c'est ça, quand je disais, quand on lit sur le racisme, quand on lit sur le sexisme, c'est sûr que je suis fâchée quand on lit sur ce qu'ils font à l'environnement. C'est sûr que je suis fâchée, mais c'est sûr que je peux pas laisser cette émotion-là m'envahir parce que je vais être malheureuse toute ma vie, tu sais. Mais dire que tout va bien tout le temps, mais c'est faux. Moi, je retrouve mes bonheurs dans certaines choses du quotidien, mais je suis très fâchée parce qu'on vit dans une société très capitaliste et très qui détruit l'environnement et qui ne fait pas de place aux personnes de la diversité ni aux femmes. Donc, évidemment que je suis fâchée.
Il y a une petite fille d'à peu près 14-15 ans qui vient de nous écouter là. Qui rêve de faire de l'humour, qu'est-ce que tu lui dis? Elle est ici, c'est une fille non blanche,
ouais.
Pour être plus précis.
Ouais. Ben, j'ai envie de lui dire que si elle commence dans les 5 prochaines années, j'espère que ça va s'être amélioré. Mais j'ai envie de lui dire de m'écrire, premièrement, parce que je vais lui faire une place sur mes soirées des allumetières. J'ai envie de lui dire qu'elle va se heurter à plusieurs portes fermées ou à plusieurs obstacles parce qu'elle va rester dans la minorité, mais que si elle croit en ce qu'elle dit puis en son rêve, il va avoir une
place. Merci pour tout ce que tu as dit.
Ben, merci vraiment beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Puis, je vais continuer à te suivre et à suivre
moi,
ce que tu fais.
Moi aussi.
C'était Emna Achour au micro de SIEC. Mon nom est Cyril Ekwala.
Bonus.
Bah, moi, je pense qu'il y a vraiment un besoin. Tu sais, j'ai beaucoup parlé de... Des gens me disent, Emna, fais pas des spectacles sur des thématiques aussi nichées, ne parle pas de sujets aussi nichés, tu vas t'aliéner du public. Mais ce qu'on comprend pas, c'est que moi, par exemple, si j'étais un public de spectacle d'humour, je me sentirais zéro représentée par la plupart des spectacles. Et que si je voyais un spectacle comme Québécoise, où il y a que des femmes racisées, je dirais, mais prenez tout mon argent, je veux être là, puis je le vois l'engouement, je le vois. J'ai eu une vingtaine de partages de gens que je ne connais même pas. C'est ça qui a fait que, sûrement, que tu es tombée sur la publication. En fait, toi, Cyril, fait que je sais qu'il y a un besoin. Il y a des, à chaque spectacle que je fais, il y en a peut-être une, hein, dans le public par show, une fille arabe, une fille haïtienne, une fille, peu importe, qui vient me voir à la fin. Comme, merci. Non, merci d'exister. Merci de dire les choses que tu as dites. Enfin, je me sens comme si je pouvais enfin comme, m'identifier à quelque chose sur scène.
Comment s'est fait le choix de ces humoristes?
Ben, c'est pas compliqué, c'est les seuls qui existent. Je veux dire, je les ai toutes prises. Puis en fait, il y en a une qui manque, mais c'est vraiment parce qu'elle n'était pas disponible pendant les dates du Zoufès. C'est Doua Kachache, qui est qui est d'origine marocaine, superstar sur TikTok depuis le début de la pandémie. Puis elle commence à faire de l'humour, puis ça se passe super bien. Donc, on aurait été 7 si elle avait été disponible, mais là, donc, on est 6. Mais c'est toutes des filles que j'ai croisées dans plusieurs soirées d'humour, surtout à mes débuts, quand je faisais plutôt exclusivement les spectacles des Bad Boys, des Bad Girls du Rire, qui est comme une scène où on veut vraiment mettre de l'avant les personnes issues de la diversité. Là. Puis c'est fou parce que je me suis rendu compte que je les croisais plus. On dirait qu'on se voyait plus dans des soirées dites blanches, là, entre guillemets. On dirait que je n'étais jamais en même temps qu'elle sur des soirées. Fait que j'ai dit, hey, tu sais quoi, moi j'ai envie de rassembler tout le monde. Je sais que chacune de ces filles a un talent exceptionnel. Je veux les mettre de l'avant. Je veux, c'est moi qui anime, mais je veux que ces filles-là aient chacune leur spotlight, là, comme on dit.
Exactement.
Fait que j'ai vraiment très hâte de faire un... C'est comme un gros trip que je me paye. C'est comme un gros party avec mes amis.
Il n'y a pas une ligne, mais c'est juste, hey, venez, on va s'amuser.
Puis elles ont dit oui. Elles ont toutes dit oui tout de suite. Il n'y a pas eu de, ah, peut-être que je suis... C'est comme, non, puis si je ne suis pas disponible, je vais essayer de travailler mon horaire pour être disponible le plus possible. T'sais, fait que j'ai vraiment hâte qu'on soit... Tu sais, c'est parce que des fois, on parle de représentation, évidemment, beaucoup dans les médias, mais des fois, il y a des gens qui vont s'applaudir de juste mettre une personne racisée dans leur projet, une femme racisée, une... Mais moi, j'ai dit, mais moi, je sais que je suis capable d'en rassembler 6 sur le même spectacle et que le spectacle va être excellent et que ce sera pas de trop. Fait que voilà mon show québécoise avec 6 femmes racisées, drôles, pertinentes, intelligentes.
Et qui ne font pas de l'humour ethnique.
Non, elles vont juste parler de leur vécu. Peut-être qu'à aucun moment, elles vont parler de, juste pas moi, de leur pays d'origine, et ça serait très correct. Est-ce qu'à chaque 2 secondes, on demande à un humoriste blanc de parler d'où est-ce qu'il est né? Non. Si la personne a envie d'en parler puis que ça fait partie de quelque chose qu'elle a envie de raconter, soit. Mais sinon, c'est pas grave. Mais moi, ce que j'ai dit aux filles, je leur ai dit, tu sais, je sais pas si tu l'as vu, Cyril, Fabrice Ville a fait un documentaire qui s'appelle Briser le code, il y a quelques années, où on parle du code là, que nous, les personnes, tu sais, BIPOC, on doit adopter pour se faire accepter par la majorité, qui fait que des fois, on n'est pas complètement nous-mêmes quand on est avec des personnes blanches ou peu importe. Puis là, j'ai dit aux filles, j'ai dit, là, laissez tomber ces codes-là. Là, je sais que même moi, inconsciemment, des fois, je change un peu comment je parle ou je change les expressions, je change les sujets parce que je sais que dans la salle, ça va être juste des blancs, que je veux pas les froisser, que je veux... J'ai dit, là, laissez-vous aller, là, lâchez-vous là, c'est comme on dit en québécois. J'aurais dit, parlez de tout ce que vous avez envie de parler, sans censure, sans... est-ce que telle personne va comprendre parce que là, je parle d'un truc vraiment spécifique à ma réalité, par exemple, je sais pas, à Montréal-Nord... go. Mais j'aimerais ça qu'il y ait beaucoup de personnes de la diversité dans le public, parce que je sais que, puis c'est tout à fait normal, elles se sentent pas identifiées, elles se reconnaissent pas, donc les personnes de la diversité, on a tendance à moins consommer ce genre de culture. Si tout le line-up est blanc, évidemment que ça ne tente pas nécessairement d'aller voir ce spectacle-là, mais moi j'ai envie de dire, enfin là, vous allez pouvoir relate entre guillemets là, à ce qui se passe sur scène, donc venez en grand nombre, tu sais.